Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Olivier Bois pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 23 octobre. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, l'aggravation de la seconde vague et deux chiffres pour en prendre pleinement conscience. Plus de 1600 cas détectés toutes les heures hier en France. 40% d'augmentation en une semaine. La France a le bilan le plus lourd en Europe. Voilà pourquoi deux tiers des Français vont donc passer ou rester sous couvre-feu à partir de ce soir minuit, y compris dans des départements où la situation est encore à peu près sous contrôle. Illustration dans la Marne, où le nombre de patients en réanimation est encore très bas. Samuel Goldschmidt.
Ce couvre-feu est un gros coup de bambou pour tous les établissements recevant du public, en particulier ce bar à champagne ouvert de 17h à minuit.
C'est un gros handicap, c'est 80% de mon chiffre d'affaires qui s'efface. En fait, on est dans un confinement bis. Hein. On emploie un autre terme qui est le couvre-feu, mais c'est exactement la même chose, sauf que vous devez aller bosser. C'est la vraie déprime, là.
Aux différents comptoirs, c'est la seule conversation du moment.
Je suis retraité, je peux rester très bien les soirs à la maison, ça va pas me poser de problème. Par contre, je pense à tous les restaurateurs, je suis un ancien restaurateur. Ça va vraiment les pénaliser, vraiment.
Catherine Pidancé ne sait pas comment elle va gérer ce nouveau coup dur.
Là, c'est l'apothéose, devoir fermer à 9h, les gens viendront pas manger à 5h30, 6h. Ça va être une catastrophe, le loyer va pas bouger. Hein. Moi, j'ai un loyer de 2 092 € par mois, il va pas diminuer. Hein. Mon propriétaire, lui, il a ses traites à payer aussi de ses murs, hein. Je le comprends. Bah, c'est une catastrophe. Hein.
Au printemps, comme ses confrères, son restaurant était resté fermé 11 semaines déjà.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. On entend l'étonnement des habitants de la Marne. D'autres départements d'ailleurs sont dans ce cas avec des indicateurs en dessous des seuils d'alerte. On peut citer par exemple la Lozère, l'Ille-et-Vilaine, la Meurthe-et-Moselle ou encore les Alpes-Maritimes. Agathe Landais, vous êtes en studio avec nous. Pourquoi ces territoires malgré tout se retrouvent sous couvre-feu?
Alors parce que le gouvernement anticipe, c'est une mesure préventive car les autorités de santé s'inquiètent de la dynamique de l'épidémie. En Ille-et-Vilaine par exemple, le taux d'incidence qui indique la progression du virus est de 167 aujourd'hui. Il était de 133 il y a une semaine. Dans les Alpes-Maritimes, 169 aujourd'hui contre 129 la semaine dernière. Enfin, vous évoquiez aussi la Meurthe-et-Moselle, passée en une semaine de 129 à 187. Le virus progresse vite dans ces départements et encore plus dans leur métropole, Rennes, Nice ou Nancy. C'est pour cela qu'ils sont d'ores et déjà placés en couvre-feu.
Merci Agathe Landais. Des mesures préventives et Jean Castex, le Premier ministre, qui sonne donc à nouveau la mobilisation générale en rappelant hier qu'aujourd'hui, 50% des patients en réanimation avaient moins de 60 ans.
Tant qu'on n'est pas touché, on se croit intouchable. Pourtant, ce virus frappe tout le monde. J'en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale. Car si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures.
Alors quand on entend cette phrase, c'est évidemment l'hypothèse d'un reconfinement qu'on a tous en tête. On n'en est pas là, Virginie Garin, mais des scénarios plus stricts sont déjà à l'étude.
Solution la plus probable, le gouvernement pourrait allonger la durée du couvre-feu, le faire commencer dès 19h, comme l'a préconisé le comité scientifique, voire même 17h, comme en Guyane cet été. C'est ce qui avait permis d'inverser la courbe de l'épidémie. Si cette mesure ne suffisait pas, il y aurait la solution d'un reconfinement. Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a rappelé que pour passer Noël tranquille, il fallait que tout le monde se responsabilise, car il est impossible de prévoir ce qui se passera dans les 2 mois qui viennent.
À chaque fois, quand on parle de prédiction, tous ceux qui en ont fait s'en sont plantés. Donc, nous faisons le maximum pour protéger les Français dans la période actuelle, et évidemment dans les mois à venir. Plus nous agissons, plus nous sommes solidaires, plus nous faisons attention dans nos comportements quotidiens, plus nous avons de chances de pouvoir passer Noël en famille dans les meilleures conditions.
En Europe, l'Irlande et le Pays de Galles ont déjà décidé de reconfiner leur population.
Merci Virginie Garin. Prenons quand même un chiffre qui va dans le bon sens. La France est passée à 1 600 000 tests la semaine dernière, avec 90% des résultats donnés en 48 heures.
Une semaine après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la famille du terroriste s'exprime pour la première fois.
Oui, c'est un document RTL M6. François Vignol a recueilli le témoignage du grand-père d'Abdullah Kanzorov.
Absolument.
On n'a jamais remarqué le moindre signe de radicalisation. Mon petit-fils faisait la prière, il faisait le ramadan. C'était un jeune musulman pratiquant comme il en existe plein d'autres. Tous les Tchétchènes sont horrifiés par ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si on va nous mettre tous dans le même panier, mais j'espère que ce ne sera pas le cas, car chacun est responsable de ses actes. J'adresse à la famille de Samuel Paty toutes mes condoléances. Peut-être qu'ils ne les accepteront pas, mais je les présente quand même.
Le témoignage exclusif pour RTL M6 du grand-père du terroriste, dont la radicalisation pourtant ne fait plus aucun doute. Il était en contact avec deux djihadistes en Syrie qui ne sont pas pour autant à cette heure considérés comme les donneurs d'ordre.
Et à 7h35, on part aux États-Unis, Olivier, pour le tout dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump.
Oui, le premier débat avait été jugé, on s'en souvient, indigne par tous les observateurs. Celui-là a été plus policé, pas de coup de théâtre, pas de gaffe majeure, pas de chaos en tout cas ni pour l'un ni pour l'autre. Et sur le fond, des messages assez convenus des deux candidats, dont voici l'un des échanges. Écoutez.
Vous ne cessez de parler de toutes ces choses que vous allez faire, mais vous étiez au pouvoir il n'y a pas longtemps et vous n'avez rien fait. Vous savez, Joe, je me suis présenté à cause de vous et de Barack Obama, parce que vous avez fait du mauvais boulot. Si vous aviez fait du bon boulot, je ne me serais jamais présenté. Je vous regarde, vous parlez comme un politicien.
Vous savez qui je suis, vous savez qui il est, vous connaissez son caractère, vous connaissez mon caractère, vous connaissez ma réputation, l'honneur, dire la vérité. Le caractère du pays est en jeu dans ce scrutin.
Extrait du débat recueilli par le correspondant RTL aux États-Unis, Philippe Corbet.
Bon, on va terminer avec un mot de football.
Oui, les Lillois qui sont venus sauver l'honneur des clubs français engagés cette semaine dans les Coupes européennes. Le LOSC a battu le Sparta Prague 4-1 sur son terrain. Et Nice, de son côté, a sombré 6-2 chez les Allemands du Bayer Leverkusen. C'était l'ouverture, bien sûr, de la Ligue Europe.
Merci beaucoup, Olivier Bois. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, MeToo en cuisine. La parole des femmes se libère aussi dans nos grands restaurants. C'est la Une de Libération.